parler ou chanter, à la différence, par exemple, de ce que l'on peut trouver dans la langue allemande ou la langue anglaise. Donc c'est vrai qu'on est assez prisonnier, mais après tout, c'est un défi et ça vaut la peine de le prendre en charge.
Alors, vous avez évoqué le problème des onomatopées dans la musique contemporaine et des problèmes de perdition de sens quand la poésie est mise en musique. Alors, évidemment, il y a un domaine qui est le rock'n'roll où on ne se pose pas toutes ces questions, on y va carrément. Et c'est ce qui se passe avec une œuvre très remarquable de Monsieur Little Richard qui s'appelle Tutti Frutti. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, on va comprendre tout de suite. Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, en compagnie aujourd'hui de Jean-Yves Bosseur, compositeur. Réalisation Jean-Marc Clauss, Elmander Babaï. Nous nous retrouverons demain à 14h30 en compagnie de Paul Huirossi, le poète de Fayence.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1996. À suivre.
Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Avoir été influencé par la grande littérature n'est pas une chose récente pour moi, c'est une chose très ancienne. Ainsi pour Terra Trema, Giovanni Verga, ainsi pour Rocco et ses frères, Dostoïevski. On est toujours influencé par la culture dans laquelle on est immergé. Pour être un grand metteur en scène de cinéma et seulement de cinéma, peut-être faudrait-il être un culte. Luchino Visconti. Disparu en 1976. Luchino Visconti, au programme de tant d'émissions diffusées sur France Culture, à propos de cinéma, d'opéra, de mise en scène, de théâtre. Luchino Visconti, au menu d'un mardi du cinéma, diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 juin 1985. L'idée, l'illusion de la beauté.
Luchino Visconti, la beauté au cœur du temps.
Nous avions le même sablier. Autrefois, chez mes parents. Le sable s'écoule par un orifice si étroit que lorsqu'on le retourne, il semble que le niveau dans le globe supérieur ne changera jamais. On dirait que le sable attend pour s'écouler dans l'autre globe les tout derniers instants. Jusque-là, c'est si lent que l'on croit avoir le temps d'y penser. Et au dernier moment, lorsqu'il arrive à son terme, qu'il ne reste plus de temps pour y réfléchir, le sablier est vide.
Youssef Ishakpour.
L'origine de Visconti, c'est bon, tout le monde sait, c'est un aristocrate d'une famille très ancienne. Mais l'aristocratie italienne a cette particularité qu'elle existait encore jusqu'au début de ce siècle dans un pays qui n'était pas très marqué par la modernité. Et par la civilisation bourgeoise. Il y avait une sorte de mélange d'aristocratie et de patricia qui vivaient encore de manière très lointaine, peut-être manière décadente, il faut appeler les choses comme elles sont, la culture humaniste de la Renaissance.
Oui.
Ce que dans d'autres pays, à partir du XVIIe siècle, avait été de plus en plus remis en question, au XVIIIe, surtout au XIXe, il y a une rupture complète, mais en Italie, il n'y avait pas cette rupture. Alors, si on veut parler de Visconti, il faut donc tenir compte d'un pays où ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas le roman qui est la forme culturelle la plus importante, mais l'opéra. L'opéra dans la mesure où, justement, l'opéra, c'est un univers de magie, d'enchantement, d'art surtout, de style et de la passion. Tandis que ce qu'on voit en général dans les romans, dans les autres pays, les pays modernisés, industrialisés, avec des grandes villes, avec une bourgeoisie très développée, c'est en général une sorte de désillusion de la passion. C'est la prose à la place de la magie de l'art. Donc Visconti, si on veut parler de Visconti, des origines de Visconti, il faut partir de ce pays où, au XIXe siècle, même jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à Puccini, l'opéra, c'est la forme principale de la culture nationale.
Influencé par la grande littérature, ce n'est pas une chose récente, c'est une chose très ancienne pour moi. Je veux remonter même à la terre tremble au fond. Parce que la terre tremble aussi était influencée par un grand romancier italien qui est Giovanni Verga et surtout par son roman Les Malavoglia. Alors finalement j'ai fait Les Malavoglia mais en transposant l'histoire de la famille à l'époque où je tournais le film. Rocco et ses frères aussi étaient très influencés par Dostoïevski. Même en faisant des histoires originelles, comme par exemple Les Damnés, On est toujours un peu influencé par la littérature qu'on connaît, enfin par la culture dans laquelle on est immergé. Et que pour être un vrai grand metteur en scène de cinéma, il faudrait être absolument incultivé, ne rien savoir et naître aujourd'hui. Enfin, vous comprenez ça, sans avoir derrière soi une culture qui n'est pas faite seulement d'œuvres littéraires, mais qui est faite d'œuvres de peinture, de musique et de toutes les arts qui ont précédé le cinéma de plusieurs siècles. Mort à Venise est un conte de Thomas Mann dont je connais assez bien l'œuvre, que j'aime beaucoup et qui m'a sûrement beaucoup influencé. J'aime aussi d'autres œuvres de Thomas Mann qui sont La Montagne Magique ou bien Le Docteur Faustus, dont on sent quelque chose aussi dans Mort à Venise, dans mon film, je veux dire.
Ce qu'on a, on a d'un côté l'opéra chez Visconti, on a de l'autre côté l'héritage humaniste et la peinture, c'est-à-dire les textes et les images. Donc c'est de cela qu'il faudrait partir, de cette synthèse, de cette tentative de synthèse que Visconti tentera entre l'opéra, la littérature, l'héritage pictural. Bien évidemment, dans une Italie qui n'est plus l'Italie dans laquelle il était né, mais c'est une Italie qui commence à être modernisée très très rapidement, surtout à partir du milieu des années 50.
Ouais.
C'est même l'effet de la modernité en Italie est beaucoup plus importante qu'en France ou en Allemagne ou en Angleterre, qui avait commencé déjà au cours du 19e ou même à partir du début du siècle. C'est parce que l'Italie était justement un pays à prédominance agraire, avec la culture humaniste, avec les villes qui étaient encore les villes un peu dans la tradition des villes de la Renaissance, qui n'étaient pas des villes industrielles avec l'atomisation, avec la grisaille, avec la laideur qu'on connaît. Donc c'est cet univers-là qui était en train de se transformer. Et si Visconti, à partir d'un certain moment, vers les milieux des années 50, commence à faire des films surtout tournés vers le passé, et des films très nostalgiques, c'est une manière de réagir à cette actualité devant laquelle il se trouvait de plus en plus étranger.
Je vais vous dire que moi, j'ai commencé à faire du cinéma.
Luchino Visconti.
Début de la guerre, n'est-ce pas ?
Avril 58.
Mais j'avais fait une expérience pour moi capitale et d'une très grande importance. C'est quand j'avais commencé à m'intéresser de questions de cinéma, car de théâtre, je m'étais déjà intéressé plus tôt. J'ai eu la très grande fortune et la très grande chance de venir à Paris et de travailler à côté de Jean Renoir. Alors j'étais assez jeune, et d'apprendre de lui sa façon de voir la vie, de décrire la vie, d'approcher les hommes, de comprendre les problèmes des hommes, les problèmes humains, profonds et sociaux des hommes. Ça m'a ouvert les yeux, comme on dit, n'est-ce pas ? Je vivais en Italie à cette époque, et nous vivions malheureusement déjà depuis des années avec le fascisme en Italie. Plus rien n'existait de vrai, plus rien n'existait de authentique, mais tout était arrangé et forgé à la façon des désirs de notre gouvernement. Et je n'avais pas eu occasion de pouvoir regarder profondément la vie italienne et la réalité de la vie italienne. Mais après mon expérience parisienne, qui n'a pas duré longtemps du reste, mais qui a été pour moi comme une entière vie d'expérience, je suis rentré en Italie et tout à coup je me suis aperçu que j'avais comme requis la vue. Je voyais finalement, je voyais profondément dans les choses italiennes. Et je voyais profondément dans la vie italienne et je voyais profondément l'âme des Italiens qui étaient suffoqués, écrasés par la dictature. Et voilà, moi, commence à naître le désir d'exprimer cette réalité et cette vérité. Et c'est encore sous le fascisme que je réussis à réaliser mon premier film, qui est Obsession,
oui. N'est-ce pas ?
Et qui était un film qui a été naturellement combattu, coupé, contrasté en mille façons par le gouvernement fasciste, naturellement, car pour la première fois, le cinéma italien sortait de la formule qu'on dit maintenant des téléphones blancs. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'était cette formule qui avait tout arrangé la vie italienne sur une espèce de fausse comédie légère, oui. Et rosée, n'est-ce pas? Oui. La vie italienne n'était pas du tout une vie en rose. Alors, pour la première fois, j'ai approché une certaine réalité de la vie italienne. Et pour la première fois, j'ai montré une Italie comme je la voyais moi-même, une Italie vraiment pauvre, dépouillée et réelle. Voilà, ça c'était ma première expérience. Et pour vous dire comment je suis arrivé à désirer cette espèce de, disons, d'ouverture d'une fenêtre sur quelque chose de différent, je vous dirais que depuis justement Obsession, qui est de 1942, n'est-ce pas, 41-42, jusqu'à l'année dernière, 15-16 ans sont passés à peu près, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Oui. Et dans ces 15-16 ans, on a fait une très grande production de films néo-réalistes. Moi-même, naturellement, après ça, j'ai tourné La Terre tremble, qui est un film qui est resté d'une certaine importance, parce que j'ai pour la première fois abordé dans sa totalité la vérité d'un petit coin d'Italie, oui. Sans rien ajouter de ma fantaisie, sans rien ajouter d'arranger, de préparer. C'est un film que j'ai tourné, comme vous savez, sans scénario, à l'aide d'un groupe de pêcheurs et de filles d'un petit village de Sicile qui parlent leur langue sans des dialogues écrits, mais des dialogues plutôt improvisés par eux-mêmes. Donc ça, c'était pour moi l'expérience néo-réaliste. Et je pensais, je sentais que je n'aurais pas pu aller plus loin dans ce sens. Pour moi, c'était un peu... fermé, cette période était un peu finie. Alors, Sense est déjà une espèce de, comment pourrais-je dire, de libération vers quelque chose de différent. Sense était déjà quelque chose qui se détachait, n'est-ce pas, du réalisme que j'avais suivi jusqu'à ce moment. Et je m'inspirais pour Sense à une tradition de mélodrame. Et voilà tout à coup le moment qui. On arrive. Vraiment, au jour où je décide de choisir un conte si beau et si important de Dostoïevski pour tâcher de le transformer en film.
Les Nuits Blanches, c'est une de ses toutes premières œuvres.
C'est le désir aussi, à ce moment-là, justement, de tâcher de soulever ma matière, dans quelque sorte, si je peux dire comme ça, dans un domaine un peu plus... magique presque.
Exactement.
Vous comprenez ?
Exactement.
Et alors j'ai tâché vraiment de mettre dans cette histoire ce côté mirable et presque impossible à rejoindre, n'est-ce pas, qu'il y a dans les pages de Dostoïevski. Et il y a quelqu'un qui dit que j'ai réussi en partie à créer cette espèce de mystère autour d'une petite histoire d'amour. Il y a d'autres qui disent que je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, je me considère déjà assez satisfait d'avoir essayé.
Ce qui
essayé.
Est important pour nous, c'est de savoir si cette création vous apparaît désormais suffisamment certaine pour continuer dans ce sens.
Je crois. Je suis toujours à la recherche d'histoires vraies, d'histoires qui sont très basées sur la terre, vous comprenez ? Mais où les sentiments, où les passions, où les situations nous permettent de nous soulever sur la terre.
Thank you.
Je crois que essentiellement c'est une élégie, son œuvre.
Oui.
C'est une œuvre élégiaque sur le passé. Évidemment, Visconti était un progressiste.
C'est ça.
Il était progressiste dans la mesure où il était justement contre les éléments sociaux, pour les appeler par leur nom, d'une certaine nouvelle bourgeoisie qui, elle, était inculte et qui, elle, était la cause justement de cette destruction du passé et en même temps d'une oppression plus grande sur le peuple. Parce que chez Visconti, il y a cette idée patricienne, aristocratique, patriarcale de rapport avec le peuple. Le peuple qui apparaît chez Visconti dans la Terra Trema, ce sont les pêcheurs. Dans Rocco et ses frères, ce sont des paysans qui vont devenir ouvriers, mais c'est encore le peuple lié à l'ancien régime, lié à l'aristocratie. Et ce qu'on voit, par exemple, dans tous les films de Visconti, dans la plupart, il y a toujours cette illusion que quelque part, il devrait y avoir une sorte de réconciliation entre l'héritage du patriciat, parce qu'il savait très bien que l'aristocratie était morte, mais il y avait l'héritage culturel, l'humanisme, donc il voulait qu'il y ait une réconciliation entre l'héritage humaniste et puis le peuple qui serait le porteur actuel de cet héritage et qui, en quelque sorte, sauterait par-dessus la modernité et l'industrialisation pour créer à la fois une société dans laquelle l'oppression et l'injustice auraient disparu, mais en même temps qui aurait les formes, les manifestations, les formes culturelles anciennes. On peut voir la même chose dans son rapport au cinéma.
Oui.
Par exemple, bon, le cinéma, quand on regarde le problème de l'invention du cinéma, le développement du cinéma, la reproduction technique, c'est évident maintenant qu'avec la photographie, ensuite avec le cinéma, c'est tout le système de la représentation hérité des Grecs et de la Renaissance qui a été en quelque sorte démantelé complètement. La narration est devenue impossible, la figuration aussi. Or, ce que Visconti veut faire, c'est justement une sorte une tentative de faire revivre cette narration ancienne et cette figuration ancienne par le moyen même qu'il a détruit, c'est-à-dire par le moyen du cinéma. De la même manière qu'il espère qu'il y aura une sorte de reprise de la culture humaniste par le peuple,
oui.
Il espère qu'il y aura en quelque sorte une possibilité de mettre la culture humaniste à la portée de tous par le moyen du cinéma. Mais dans les deux cas, c'est une utopie. Et justement, l'œuvre de Visconti, c'est en quelque sorte un lieu tragique de la découverte de cette impossibilité, de quelque chose qui ne peut pas se faire et qui se détruit mutuellement.
J'ai toujours été attirée par le thème de la divergence qui peut surgir entre les aspirations esthétiques et la vie d'un artiste, entre son existence qui dépasse apparemment l'histoire et sa participation aux conditions historiques bourgeoises. Pas seulement cela, j'ajouterai quelque chose. Dans la mesure où ce sujet m'attire depuis toujours, je n'aurais pas osé l'aborder auparavant. Et en fait, bien que j'y pense depuis des années, j'ai toujours différé le projet. J'attendais de posséder la maturité et l'expérience suffisantes derrière moi pour poser le problème du bilan que la maturité et l'expérience impliquent et qui se trouve dans la nouvelle de Thomas Mann.
La beauté. Tu veux dire ta conception spirituelle de la beauté.
Quoi?
Prétendrais-tu que le génie d'un artiste soit incapable de la créer?
Oui, c'est très précisément ce que je prétends.
C'est la conception de la beauté platonicienne, donc, qui revient dans les thèmes de Mort à venir, surtout. Mais dans d'autres œuvres de Thomas Mann, il y a presque toujours ce thème.
Alors, selon toi, notre travail d'artiste...
Travail, le mot est lâché. Crois-tu sincèrement que la beauté puisse être le fruit d'un travail?
Oui. Oui, je le crois.
C'est toujours le thème, ce thème-là de la beauté qui est corruptrice en même temps que fascinante, qui est le thème de la maladie, au fond, qui se identifie avec la beauté. C'est Madame Chocha de la Montagne Magique et c'est justement ici Tazio de Mort à venir.
La beauté naît d'un éclair, spontanément. Elle ne doit rien à ton travail, ni au mien. Elle ne doit rien à notre présomption d'artiste.
Oui.
Dans ma conception, je crois que l'artiste doit tendre toujours à la perfection, donc à la beauté parfaite. Je crois que tous les moyens sont valables pour y arriver, tous les moyens sont valables pour atteindre cette beauté, cette perfection. Ceci est vrai pour un artiste, pour un écrivain, pour un musicien, pour un peintre. Pensez à toute la peinture italienne, depuis Masaccio jusqu'à la peinture actuelle. Et c'est tendre vers cette beauté, la réalisation de cette beauté.
Ta grande erreur, mon cher, est de considérer la vie, la réalité, comme une limitation.
Mais n'en est-il pas ainsi? La réalité nous distrait et nous détourne de l'idéal.
Alors, évidemment, ça, on peut accuser ça d'esthétisme, d'hédonisme, de décadentisme, tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que c'est plus sérieux de lui donner une définition plus grecque, au fond, dans un sens. Et dire que c'est la réalisation d'une perfection, d'un équilibre complet et parfait, qui en art devrait être le but de chaque artiste.
Aschenbach arriva un peu en avance dans le hall. Il y trouva rassemblés la plupart des hôtes. On entendait parler à mi-voix les principales langues de la terre. On voyait des Américains aux figures sèches et allongées, des Russes entourés de leurs nombreuses familles, des Anglais, de petits Allemands avec des gouvernantes françaises. Les Slaves étaient en majorité. Les Polonais, des jeunes gens au sortir de l'enfance, étaient assis sous la surveillance d'une gouvernante autour d'une table de rotin. Le groupe se composait de trois jeunes filles de 15 à 17 ans, et d'un adolescent aux cheveux longs qui pouvait avoir 14 ans. Celui-ci était d'une si parfaite beauté qu'Aschenbach en fut confondu. La pâleur, la grâce sévère de son visage, encadré de boucles blondes comme le miel, son nez droit, une bouche aimable, une gravité expressive et quasi divine, tout cela faisait songer à la statuaire grecque de la grande époque. Les 13 avaient un charme si personnel, si unique, qu'Aschenbach ne se souvenait d'avoir vu, ni dans la nature, ni dans les musées, une si parfaite réussite. Assis dans un fauteuil de rotin, Tadio se présentait de trois quarts, un coude appuyé au bras du fauteuil, la joue posée sur sa main repliée, dans un mélange de retenue et d'abandon.
Mmh.
souvent de l'ambition qu'il a de vulgariser les grands textes en espérant que ce sera stimulant pour le plus grand nombre.
C'est ça, seulement que Visconti n'a pas vulgarisé les œuvres, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a vécu dans ce monde-là. Quand il fait Moravnise et qu'on voit Tadzio au Lido, bon, Tadzio a à l'époque peut-être 13 ans, 14 ans, Visconti, à la même époque, avait 6-7 ans quand il allait. Une espèce de super au Lido avec sa mère. Bon, ça tout le monde le sait, que Silvana Mangano est habillée comme la mère de Visconti était habillée. Enfin, il y a une espèce de transposition. Et il y a une sorte de transposition même de Proust à l'intérieur de Moravnise. C'est pas simplement parce qu'il a repris la description de l'hôtel ou de la plage de Proust, mais tout simplement, il y a une sorte de recherche du temps perdu. C'est-à-dire qu'à travers l'amour de Gustav von Aschenbach pour Tadzio, c'est aussi le regard sur l'enfance et le regard de Visconti sur son propre enfance. Donc Visconti dit qu'il avait une sorte de mémoire involontaire. Quand il fait la mort à Venise, il y a cet élément qu'on ne trouve pas dans Thomas Mann, justement cette dimension temporelle, oui, qui vient de Proust, qui est déjà Proust, c'est un pas au-delà du roman traditionnel, parce que Proust sait déjà, il sait très bien que cet univers n'existait plus que dans la mémoire, dans le souvenir. Quand Visconti fait la mort à Venise, ce n'est pas simplement une actualisation. On ne fait pas semblant pour dire que les choses sont là, on les donne. C'est aussi une sorte de remémoration, le souvenir de cet univers, le souvenir de cet univers qui fait que quelque chose qui était parfaitement beau, qui avait une existence, une substantialité, a disparu. Et il fait, en faisant des adaptations, c'est comme s'il faisait des réévocations, des évocations, des gens qu'il rappelait, du monde des morts, mais on assiste de nouveau à leur mort. Et il y a cette dimension justement de quelque chose qui se dissout et qui disparaît et qui n'est pas nôtre, qui ne nous est pas donné comme ça.
Tadzio.
Tu ne dois jamais sourire comme ça. Tu ne dois jamais sourire comme ça à personne.
Comme évoquer dans une séance spiritique des gens qui ne sont plus là mais qui peuvent revenir et vous raconter des choses très intéressantes.
Donc il y a cette notion d'un ailleurs, d'un autre monde qu'il faut aller chercher. Il faut quitter une rive et puis passer le fleuve du temps pour aller chercher des images qui sont loin, les ramener ici, et comment faire rêver à travers une image de cinéma, faire rêver à quelque chose qui n'existe peut-être que dans le sentiment, dans l'esprit.
C'est que la nécessité de traverser le fleuve du temps, enfin aller de l'autre côté pour ramener des images, existe surtout dans les derniers films de Visconti. C'est-à-dire que à partir justement de ce milieu des années 50, c'est-à-dire le point de renversement est probablement même Nuit Blanche.
Oui.
On peut dire que l'année 55-56 en Italie a été une sorte de prise de conscience à la fois que l'époque de la résistance était définitivement terminée.
Oui.
Une chose. Et il y a une autre chose, il ne faut pas oublier, l'année 56, c'est l'année de rapport Khrouchtchev. C'est-à-dire Visconti était quelqu'un lié au Parti communiste. Donc c'est à partir de ce moment-là que cette confiance qu'il avait dans le futur l'a quitté. Et c'est à partir de ce moment-là que le rapport au passé devient le rapport à un univers de mort. Parce que quand il fait, par exemple, Senso, son premier film en costume, son premier film historique, on n'a pas justement dans Senso, dans les images de Senso, dans le rythme de Senso, on n'a pas ce rapport à un passé, à quelque chose qu'il faut aller chercher. Mais c'est beaucoup plus tard, quand il fait Le Guépard, par exemple, dans Le Guépard, c'est très très net, que Le Guépard, c'est un univers fini, terminé. Et d'ailleurs, l'histoire est racontée du point de vue de quelqu'un qui aurait la conscience de maintenant,
oui,
mais qui regarderait sur ce monde qui est condamné à la mort. Donc, il y a cette dimension. Mais quand Visconti, par exemple, faisait La Terra Trema, La Terra Trema, c'est la peinture de la Renaissance, c'est la littérature, la première grande littérature moderne italienne, c'est Verga. Donc, c'est la peinture de la Renaissance plus Verga, plus l'actualité. Dans La Terra Trema, il n'y a aucune espèce de nostalgie. Quoique les images soient parmi les plus belles images que Visconti ait réalisées, justement parce qu'il croyait à l'actualité de cette beauté, à la possibilité de la réalisation de cela. Mais c'est simplement à partir du moment où l'espoir le quitte, que les films deviennent ce long regard, justement, sur le passé, où il faut aller les chercher sur l'autre livre. Alors l'autre rive, évidemment, le prix à payer pour aller à la rencontre de la beauté, de cette beauté ancienne, c'est la mort.
J'avais prévu que sur la plage, peu avant la mort d'Aschenbach, à la foule du début succéderait presque un désert, et que ne resteraient que les Russes, c'est-à-dire les plus réfractaires à la peur, les plus extravertis, les plus bavards. Quand je me suis apprêtée à tourner la scène, je me suis souvenue que parmi les figurants, j'avais Masha Predi, qui est une excellente ancienne cantatrice de musique de chambre. Je lui ai alors demandé de me chanter quelque chose en russe. Elle a pris peur parce qu'elle n'avait aucune partition et qu'elle devait chanter de mémoire. Pendant qu'elle chantait, toute la troupe resta médusée et bouleversée. Et j'ai tout de suite pensé que ce moment lyrique était l'exact prélude musical qu'il fallait pour la mort d'Aschenbach.
dit, toute notre pensée, notre vie est une pensée de la mort.
C'est une pacification dans...
La mort, enfin, il y a deux formes de rapport à la mort dans Visconti. Une qui est justement cette dimension qui peut conduire à la beauté et à l'œuvre et à l'esthétique, la dimension contemplative. Et une autre dimension qui va absolument posséder, qui détruit et s'autodétruit. Il y a cette idée de la beauté, mais la beauté est à la fois quelque chose d'invisible, mais à la fois c'est un chemin. C'est-à-dire que c'est le visible, en quelque sorte, qui est la présence de la beauté, mais une présence comme si c'était la présence d'une absence, comme si c'était un signe ou un chemin vers quelque chose d'autre qui doit aller plus loin. C'est comme ça, d'ailleurs, à la fin de La mort à Venise, quand Tadzio rentre dans la mer et il fait signe vers le soleil. Et là, vraiment, l'image est quasiment abstraite. Enfin, on ne voit pas vraiment la figure. Ce qui fait que cette dualité, là, on la voit. C'est-à-dire, il y a la dualité entre l'âme et le corps. C'est ce geste vers un lointain, vers un ailleurs. C'est ce lointain auquel on ne peut parvenir qu'en contemplant la beauté, mais la beauté comme chemin. Et puis, le revers de cela, c'est l'image du cadavre. Une dualité et une identité. La dualité vient du fait qu'on a l'ordre de l'invisible qui serait la beauté absolue, qu'on ne peut justement pas voir, ce qui fait qu'on ne voit plus que des scintillements sur la mer. On voit Tadzio s'éloignant dans un contre-jour, c'est-à-dire que la figure devient indistincte, et puis il y a ce mouvement vers l'ailleurs, qui serait le soleil. Et puis on a l'ordre du visible. Le visible est complètement séparé de cela, c'est le cadavre. Mais il y a l'identité interne, c'est dans la mesure où ne peut contempler la beauté que qui ressemble à la beauté. Et ne peut contempler la beauté que celui qui est promis déjà à la mort. Donc il y a cette identité, c'est-à-dire en fait, c'est son soi qu'Aschenbach voit. Et c'est pour ça que quand il voit son soi ou l'ange, comme a dit Visconti, et c'est quand il voit le mouvement de la main de Tadzio, il a une sorte de sourire. Oui. Et il bouge un peu la tête, comme si il avait compris
une
que c'était bien cela. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus la métaphore de l'impossibilité de posséder la beauté. Quand il y a l'ami de Tadzio qui le jette à terre et s'assoit sur lui, donc il y a cette opposition, non pas qu'il aurait été maculé, en fait la beauté ne peut pas prendre la souillure,
oui,
à seule condition de rester la beauté. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut pas posséder. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais fait une sorte de rapport avec le rapport entre le spectateur du cinéma assis dans son fauteuil, regardant des images qui n'ont pas de corps. Des images qui sont un peu, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est l'allégorie de Platon qui s'est réalisée, l'allégorie de la caverne. Alors le spectateur, Aschenbach, assis dans son fauteuil, ne pouvant pas bouger, tandis qu'il y a l'autre qui, à sa place, est sur l'image. Et que c'est justement, il y a un geste, un seul geste fantasmatique dans le film, c'est quand Aschenbach touche, dans une sorte d'image intérieure, touche la tête de Tadzio. C'est justement ce qui n'existe pas, ce qu'on ne peut pas faire au cinéma. Et c'est au cinéma où les images sont immatérielles, n'ont pas de corps, et qui peuvent être, ne sont pas toujours, qui sont très souvent même de l'ordre de l'illusion, simplement, mais qui peuvent être autre chose. Et là, c'est l'extrême limite de film Visconti dans Mohamed Nice, que ça devient une indication vers cette autre chose. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une caméra braquée sur le bord de l'eau entre les deux éléments qui ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent se rencontrer dans une identité qui se passe ailleurs et à travers la séparation. Trois éléments exposés comme une sorte d'allégorie, je dirais, à la fois le cadavre, l'appareil de reproduction photographique et puis le geste de l'ange vers l'ailleurs.
Souvent, j'ai pensé que l'artiste ressemble au chasseur qui tire une proie dans la nuit. Il ignore ce qu'elle est, s'il a pu l'atteindre. Mais il ne peut pas compter sur la réalité pour mieux guider son tir ou reconnaître sa cible. Non, créer la beauté est un acte purement spirituel.
Non, mon cher, mille fois non! La beauté appartient au domaine des sens, rien qu'au sens.
Nos sens ne peuvent nous hisser jusqu'à l'esprit. On n'atteint pas à l'esprit par les sens.
Ça, non. C'est seulement par une complète domination des sens que l'artiste a quelque chance d'accéder à la vérité, à la sagesse, à la dignité humaine.
Dignité humaine, sagesse.
Oui.
À quoi cela sert-il? Le génie est un don de Dieu. Je devrais plutôt dire une punition de Dieu. C'est un embrasement morbide, démoniaque de nos dons naturels.
Je refuse, je rejette l'épithète démoniaque appliquée à l'art.
Et tu as tort! Le mal est une nécessité. C'est lui qui attise le feu du vrai génie.
Der Tee ist serviert.
Danke, Hilda. Tu veux un peu de thé?
Oui, volontiers.
Et si tu veux du lait, sers-toi, Elena.
Merci.
Vois-tu, Alfred, l'art est la source la plus noble d'éducation. Et l'artiste lui-même se doit d'être exemplaire. Il doit être un modèle de force, de parfaite honnêteté. Il n'a pas droit à l'ambiguïté.
Mais l'art, par essence, est ambiguïté. Et la musique est de tous les arts le plus ambigu. Elle est l'ambiguïté systématique, scientifique. Tu vas voir. Écoute,
Écoute cet accord. Et cet autre. Tu les interprètes au gré de ta fantaisie. Tu as devant toi une série infinie de combinaisons mathématiques, imprévisibles et inépuisables. Un paradis de double sens dans lequel toi-même, plus que tout autre, folâtre te vautre comme un jeune veau dans le trèfle. Tu entends ça? La reconnais-tu?
Ça suffit.
C'est ta musique, elle est de toi!
Monsieur le professeur, je vous souhaite le bonjour.
Bonjour.
Youssef Chakpour.
À partir de quel moment la musique prend justement une grande, une énorme importance dans l'œuvre de Visconti? Ça commence évidemment dans Senso, et plus on avance dans l'œuvre de Visconti, plus la musique devient déterminante, ça devient un élément qui porte même parfois le film entièrement, comme dans Mort à Venise, ou comme dans Sandra, ou comme dans d'autres films. Donc, à un moment donné, ce qui est possible dans la Terra Trema, c'est-à-dire la beauté comme présence, mais non pas comme quelque chose qui est sous la main, simplement comme la forme parfaite à laquelle on pourrait espérer accéder, mais dans l'histoire, c'est-à-dire dans le futur, dans ce monde-ci, c'est en transformant ce monde-ci qu'on pourrait le rendre parfait. À partir d'un certain moment, il y a dans l'idée de Visconti que non, la beauté, si elle a une présence, cette présence, elle n'existe plus que dans les œuvres qui nous viennent du passé. Elle est dans l'opéra au début de Senso, elle est dans les peintures, dans Violence Passion, elle est dans le poème de Leopardi, qui a donné son titre italien au film Sandra, Vaghe stelle dell'orso. Donc c'est le début du poème de Leopardi. Donc la beauté devient quelque chose qui a existé dans les œuvres et qui n'est plus, que nous ne pouvons plus réaliser. Et cette beauté des œuvres est menacée justement par le temps. Cette beauté, le temps qui a fait qu'il y a une distance, une différence entre ce qui est sur la scène de l'opéra et ce qu'on peut réaliser, effectivement. Entre ce qui est le poème de Leopardi Ricordenza et ce que peut être le film de Visconti, justement. Le film, Sandra porte un titre qui vient de la poésie de Leopardi, qui est sur la remémoration. Et à l'intérieur du film, on voit qui? On voit un Américain qui est venu dans ce lieu, qui est Volterra, la capitale du peuple étrusque. En même temps, il y a les Juifs qui sont un vieux peuple de l'Occident. Donc lui, il vient avec une caméra 8 mm et il essaie de comprendre et de filmer. Il veut filmer en croyant qu'en filmant les choses, il peut les comprendre et il dit « je ne peux pas comprendre ». Donc il y a cette distance entre d'un côté la poésie de Leopardi qui est l'univers de la beauté, puis ce qui est actuel, qui est la destruction de la beauté, qui n'est pas la musique de César Franck, comme on entend dans le film, qui est une remémoration, mais simplement les variétés bruyantes qu'on entend partout. Donc c'est du bruit, ce n'est plus de la musique. Donc c'est l'actuel qui est une destruction donc, de ce qui était la beauté, qui n'existait plus que dans les œuvres, mais simplement ce qui se passe. Et c'est là l'autre dimension, c'est qu'il y a le temps même dans les films. Ce qui fait que le temps devient, le film devient une sorte de recherche du temps perdu, petit à petit, chez Visconti, qui fait que c'est par la qualité musicale, par la qualité du souvenir, par la temporalité interne du film, qui se crée une autre forme de beauté, qui n'est pas cette beauté simplement du visible qu'on pouvait avoir dans La Terre tremble ou qu'on pouvait avoir dans la peinture italienne de la Renaissance, mais c'est une beauté qui est lié à la nostalgie, à l'absence, à quelque chose de perdu. Une beauté qu'on peut simplement se remémorer, et c'est à travers cette organisation de temps, cette remémoration, qu'il y a une autre beauté qui se crée, mais qui est plus cette beauté parfaite de quelque chose qui était là dans le visible, mais une beauté qui est justement faite à partir de pertes, de manques, de failles et de la mort. Tandis que dans la beauté parfaite, il n'y a pas la mort.
À l'embarcadère du Vaporetto.
j'ai dit à l'embarcadère du Vaporetto.
Mi signore, je vais aller au Lido.
Oui, mais je veux d'abord aller Place Saint-Marc et après je reviendrai par le Vaporetto.
Le Vaporetto n'est impossible, Excellence.
Et pourquoi?
Parce que le Vaporetto ne prend pas les bagages.
Ça, c'est mon affaire. Faites demi-tour.
Oh. Oh, d'accord.
Combien demandez-vous pour aller là-bas?
Un signore paiera.
Je ne vous paierai pas un sou si vous ne me conduisez pas où je veux.
Et vous allez au Lido, non?
Mais pas avec vous.
Et je suis le meilleur gondolier. Excellence.
Qu'est-ce qu'il marmonne?
Il porte tout à portage.
Cette espèce de brisure qu'on voit à la fin de l'œuvre de Visconti, c'est en fait, je dirais que c'est l'extrême limite à laquelle pouvait aller la tradition de la Renaissance et la tradition de la figuration. La peinture figurative était à sa base même l'idée qu'on pouvait présenter les idées sur le tableau à travers les phénomènes, ou alors les phénomènes de ce monde pouvaient devenir essentiels, atteindre à la forme. Et justement, avec cette reproduction technique, et avec tous les autres éléments, la grande ville, la civilisation industrielle, le capitalisme, etc., il y a cette brisure complète qui fait que, justement, on ne peut plus faire de la représentation dans la peinture, comme on ne peut plus raconter simplement des histoires,